On va leur demander de ne plus prêcher le nom qu'ils prêchent.
Et mon Dieu, ce n'est pas possible. Pouvons pas nous taire. Pouvons pas ne pas parler.
Et voilà que ces gens-là, on les retrouve dans le temps. Alors, vous voyez que c'est un discours, je m'arrête ici parce que nous n'en aurons pas. Nous verrons la suite demain. Un discours qu'on ne peut pas laisser là. Il faut que nous lisions le chapitre 6 et le chapitre 7e pour aller pour voir où ça mène tout ça. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter comme on fait parfois, hein, en prenant les 5 premiers chapitres des Actes des Apôtres et en faisant comme si la communauté de Jérusalem était une communauté bien unie, bien parfaite, et qu'il faut mettre la communion dans notre petite communauté de la même manière, et qu'on y arrivera, vous savez. Mais non, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'il faut continuer à la vie.
Le chapitre de Dieu, c'est quand vous dites que nous sommes une communion de pécheurs excommuniés. Mais c'est nous autres qui nous excommunions.
Mais dîner. Mais il faut qu'on prononce notre excommunion. Il faut qu'on nous dise notre péché. La première chose que je fais quand quelqu'un vient me demander au confessionnal pour reprendre la question de l'Émile, mais c'est de découvrir avec nous notre péché. Et d'essayer d'en voir la gravité quand même. Et si je ne fais pas ça, je vais trop vite. J'ai du corps. Pour moi aussi. Mais c'est de découvrir que son péché est aussi le mien. Hein. Je n'ai peut-être pas tué comme lui l'a fait, mais j'en suis capable. Et puisque lui l'a fait, je porte aussi sa faute. Et il n'y a pas les bons et il n'y a pas les mauvais, le bon d'un côté et le mauvais de l'autre.
Et justement, genre le mot excommunié est piégé par la télé aussi, hein, ça la réaction violente au longtemps.
Mais bien sûr. Mais je prends le terme parce que c'est le terme.
Je prends de sens originel, le péché, mais hors de la communauté, mais ce n'est pas un jugement canonique ou un décret, nous sommes.
Alors
même si c'est hors de la communauté.
Mais il faut pas le déclarer. Le prophète le déclare toujours. C'est important. Mais nous voulons supprimer ces aspérités, ces difficultés qui viennent précisément de ce que notre religion a de divin.
Et on pourrait montrer le péché, mais pas dire qu'il est hors de la communauté, s'il est hors de la communauté.
Mais péché, c'est se mettre hors de la communauté. Donc il faut quand même bien vous le dire, si vous ne le savez pas.
Je crois que ceci est typique de la mentalité d'aujourd'hui qui n'a pas le sens de la communauté, qui ne la veut pas non plus. Parce que l'homme d'aujourd'hui est un individu. Il a de compte à rendre à personne, etc. Donc la communauté se dépasse du problème. Il demande simplement qu'on respecte sa libre volonté en tout.
Oui.
Respecter les contextes de la culture, donc je n'ai pas.
Et nous tournons à l'heure.
Voilà. Et le seul salut pour lui, c'est de se rendre compte que son attitude va causer problème à la communauté.
Exactement.
Il ne s'en rend pas compte.
Exactement.
Il n'a pas l'expérience.
Mais il faut qu'on le lui dise. Il faut qu'on le lui révèle. C'est la grâce qu'on lui fait.
Mais je trouve que c'est quand même grave. Que ceux qui se savent pécheurs, qu'on leur montre, non, ils ne font qu'une chose, d'après moi, ce que je vois autour de moi,
oui.
Ils quittent, ils s'excommunient, ils se sortent de la communauté. Donc la communauté n'est pas une communauté.
C'est pas ce que nous imaginons qu'il y a une communauté, précisément, c'est ce que Michel est en train de dire. Mais nous ne savons pas encore ce que c'est que la communauté. Il y a des groupes. Et nous disons des groupes, non. Une communauté de partage et de partage d'esprit, ce n'est pas si évident. Hein. Ce n'est pas si évident, ça n'existe pas à beaucoup d'exemplaires dans le monde, hein. Les communautés. Nous disons qu'il y a des communautés, et nous appelons comme telles, mais ce sont des communautés d'individualistes la plupart du temps. En tout cas, celles que je connais, peut-être pas les vôtres.
Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre Jésus annonçant la bonne nouvelle au monde et cette révélation justement que nous sommes pécheurs?
Mais en fait, oui, hein.
Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une bonne nouvelle au pauvre. Tout le monde est étonné dans la synagogue de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe?
Il est venu pour ça, Jésus.
Oui. Et il le dit encore bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Pourquoi pas nous? Nous avant Jésus, avant eux, avant Capharnaüm, à Nazareth, s'il te plaît. C'est ton pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'excommunient. Alors, la manière de s'excommunier, c'est faire quoi? Mettre Jésus dehors. C'est la meilleure manière de s'excommunier, c'est de le mettre dehors. Alors, il n'est plus là. Il disparaît. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'Évangile. C'est lui ou nous. Il a payé le prix. Il va accepter d'être dehors. Et justement, qui est-ce qui paye le prix aujourd'hui? Ce sont tous ceux qui sont acceptés, qui acceptent librement d'être dehors et de vivre humblement leur situation de pécheur, pardonné. Mais en se mêlant, c'est juste pour ceux qui le croient, qui se protègent. C'est notre situation à nous. C'est d'essayer de vivre simplement notre vie utopique dans, comment est-ce que je dirais, en partageant beaucoup le péché des autres, mais en étant conscient. Nous sommes terriblement emprisonnés dans un système pécheur, hein, terriblement. Et le malheur, c'est que nous croyons que nous vivons à la communauté de Jésus.
Et comment se fait-il qu'on soit à ce point aveugle sur son péché? Et je me demande aussi, qu'est-ce qu'un pécheur?
On peut soit être aveugle, né, hein, dans les bancs.
On ne peut pas être autrement que pécheur.
Pardon. Alors, du verset 32, verset 35, ce n'est pas un récit, c'est une utopie qui raconte.
C'est un récit.
C'est un récit.
Qui montre l'utopie. C'est un récit. C'est raconté, hein, c'est un récit. Mais ce récit est raconté de telle manière qu'il nous montre justement l'impossibilité de vivre cette réalité-là. Alors que nous croyons, hein, la plupart du temps, en lisant ça, nous, on va vivre comme à Jérusalem.
Oui.
Le péché de Jérusalem. Pourquoi
on n'est pas de peine à reconnaître son péché.
Le véritable problème, c'est que nous avons du mal de reconnaître la présence de Dieu comme Dieu. Ce n'est pas Dieu que nous servons, c'est l'image que nous avons de lui. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, hein, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est vrai, nous ne nous rendons pas compte, heureusement d'ailleurs, c'est sa miséricorde, hein, qui nous empêche de le voir.
Oui, parce qu'on perd le cœur.
On perd le cœur, hein, si on voyait la profondeur de son péché. Qui est-ce qui reconnaît le mieux son péché? Les grands saints. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus proches de Dieu. Qu'est-ce qui le reconnaît le moins? Qu'est-ce qui ne veut pas être pécheur? Celui qui est le plus loin de Dieu, qui ne parvient pas à en reconnaître la puissance de la présence.
C'est très mystérieux qu'on soit pécheur à ce moment-là.
C'est mystérieux et en même temps, ça nous connaît. Ça nous dit le prix de la grâce. La grâce, c'est une totale gratuité qui traverse cela. Mais à nouveau frais. Ça, c'est le chapitre 13e de Luc. Et c'est le chapitre 15e aussi. Et vous voyez, ce que je voulais simplement noter, c'est combien le péché n'est pas présent en Jésus, les tentations, il passe à travers. Mais il est présent tout de suite, dès qu'il se présente après les tentations, à Nazareth, ça y est, ça commence, l'opposition commence. À Capharnaüm, il a aussi l'opposition, et ça va continuer tout le long de son histoire. Petit à petit, on va le pousser dehors, comme prophétiquement on l'avait fait à partir de Nazareth. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'incapacité à vivre cette présence de Jésus au milieu de son église. Pourtant, il est là, il est donné, il nous donne la possibilité de parler toutes les langues du monde. Et en même temps, notre cœur est irrémédiablement fermé. Non, pas irrémédiablement. il va passer à travers. Mais pour passer à travers, il va falloir que nous éclations. On voit justement, hein, le, pour ça que je m'arrête ici un peu en point d'interrogation, mais nous allons voir dans la figure d'Étienne ce qui est en train de se passer. Mais c'est pour ça que je n'arrête pas au chapitre 5. Je crois qu'il ne faut pas le faire. Alors, on n'a pas fini Jérusalem, mais il y a quelque chose qui échappe dans le chapitre 5. Il faut encore qu'on voit le chapitre 6, le 7, et qu'on voit pourquoi Étienne et qu'est-ce qu'il fait. Mais si vous voulez bien, nous allons, sinon, parce que c'est trop long, nous allons arrêter de faire sa main. Et donc, nous allons essayer de
deuxième jour
dans l'évangile de Luc, comment naît le corps du Christ. Et nous avons essayé de voir dans les actes des apôtres comment nous mettons Jésus au monde. Je viens de croiser les deux choses, je l'ai remarqué. Pour la bonne raison que l'un est vraiment présent dans l'autre. Il est étonnant quand on parle de Jésus de parler immédiatement de l'Église, et pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit dès le départ pour Saint Luc. Et il est peut-être plus étonnant aussi de parler de la naissance de Jésus quand on parle des débuts de l'Église, de la Pentecôte, et cependant, il n'y aurait pas de Pentecôte si ce n'était la mise au monde actuelle, constante de Jésus. Donc, il faut s'habituer petit à petit à lire l'un dans l'autre.
Peut-être un peu des deux phrases, Luc, c'est comment?
Je vous demande de répéter quelque chose. L'évangile de Luc nous dit comment le corps du Christ est mis au monde. C'est le corps du Christ qui est l'Église. Et les actes des apôtres nous disent comment nous mettons aujourd'hui au monde Jésus vivant, c'est-à-dire le corps du Christ. J'ai choisi les deux choses pour vous montrer qu'il s'agit en fait de la même réalité d'un côté comme de l'autre. Et donc quand nous réfléchissons sur la naissance de Jésus, nous réfléchissons en même temps sur la naissance actuelle de Jésus dans son Église. Et comme nous fêtons aujourd'hui Saint Cyril d'Alexandrie, vous savez que c'est lui qui a été au départ de l'acceptation par l'Église en 431 au Concile d'Éphèse, qui était au départ, de l'acceptation par les pères de l'Église qui étaient là rassemblés, du titre de la Vierge Marie, Mère de Dieu, pas Mère de Jésus qui est aussi Dieu, ce qui serait faire en Jésus un dédoublement de personnalité, mais mère de la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Alors, si nous essayons de regarder ce qu'il y a dans l'Évangile, dans les quatre premiers chapitres, nous voyons d'abord et avant tout, ça je voulais noter avec beaucoup d'assistance, il y a donc une volonté de Luc de montrer que Jésus est de Dieu. Est de Dieu. Qu'on appelle la christologie d'en haut. Vous savez que les théologiens se partagent aujourd'hui entre christologie d'en haut et christologie d'en bas. Christologie d'en haut, ce sont ceux qui partent de la réalité divine. Christologie d'en bas, donc de Jésus comme Dieu, Fils de Dieu. La christologie d'en bas, ce sont ceux qui partent de Jésus comme homme. D'abord, ils regardent Jésus homme. Évidemment que les deux se rencontrent. Si elles ne se rencontraient pas, il y aurait quelque chose, il y a un petit problème quelque part. Bon. Et donc, Saint Luc va nous montrer cela, comme en tant que païen d'origine, il doit nous montrer d'abord que Jésus est totalement d'en haut, il est totalement Fils de Dieu, d'où son insistance sur ce terme de Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, il sera appelé. Pour lui, c'est extrêmement important. Tandis que pour un juif qui écrirait, donc comme Matthieu ou Jean ou Marc, cette notion de fils de Dieu est présente dès le départ. Nous sommes tout un chacun fils de Dieu. Il faut seulement découvrir comment nous sommes en Jésus de Nazareth. Mais cette notation de fils de Dieu est tellement courante dans le judaïsme qu'il ne faut pas tellement l'expliquer. Il faut seulement la déterminer, la préciser, que c'est en Jésus, fils de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Il nous éclaire sur notre réalité. Et alors, ce que Saint-Luc veut nous montrer aussi, c'est combien Jésus, fils de Dieu, traverse toute la réalité humaine d'un peuple particulier. Un peuple particulier. Jésus ne se donne pas d'emblée à tout le monde, parce que tout le monde, pour lui, n'existe pas. Tout le monde existe à partir de personnes bien concrètes, bien déterminées. Tout peuple existe à partir d'une entité de peuple qu'il a lui-même fait surgir. D'où l'importance que Luc met à la découverte du judaïsme de Jésus, de sa réalité juive. Parce que c'est fait l'état de son histoire concrète humaine. Donc tout entier de Dieu, tout entier de l'homme, fils d'Adam, fils de Dieu. Et donc c'est quelque chose d'assez inouï que Saint-Luc doit essayer de présenter aux gens qui sont venus du paganisme et qui ont découvert Jésus comme celui qui donne sens, et le sens décisif, définitif, à leur existence. Et alors il va nous montrer dans l'enfance de Jésus comment au fond l'homme se trouve constamment dépassé par l'action de l'Esprit Saint. Que ce soit Zacharie, que ce soit Marie, que ce soit Siméon et Anne, ils sont devancés par l'Esprit Saint. Et ce qu'ils ont à dire les dépasse à chaque moment. Et ce qu'ils ont à faire et à réaliser les dépasse, et toujours au-delà de leurs possibilités, de leurs disponibles, comme on dit aujourd'hui. Et c'est ça que Saint-Luc veut nous montrer. Un enfant, Jean-Baptiste, va naître d'une femme stérile. Un autre enfant, Jésus, va naître d'une femme vierge. Et donc il nous montre sur le plan humain une impasse, un manque, et un manque absolu. Et évidemment pour une christologie d'en bas, quelqu'un qui regarde Jésus d'en bas, il voudrait bien savoir comment les choses se sont passées matériellement. Il voudrait éventuellement se placer à la place d'un gynécologue pour voir ce qui s'est passé dans le sein de la Vierge Marie. Mais en faisant cela, il ne lit pas l'Évangile. Il vient d'ailleurs. L'Évangile ne lui dit pas ça, et sur ce plan-là, il sera nécessairement frustré. Ce n'est pas de cette virginité-là qu'il s'agit d'abord, qui va servir de sceau à la réalité virginale. Mais la virginité dont il s'agit dans la Bible, et bon, ici dans le texte, c'est celle que Dieu crée. Et il est évident, et Saint-Luc veut nous le montrer aussi, il est évident que Jésus, qui préexiste à sa mère, ce qui pour nous évidemment n'est pas évident du tout, car généralement nous ne préexistons, nous ne croyons pas que nous préexistons à nos parents, mais Saint-Luc va nous faire voir les choses du point de vue de Dieu, dans le regard de Dieu. Et dans le regard de Dieu, nous préexistons à nos parents, parce que nous sommes d'abord filles et fils de Dieu avant d'être filles et fils de nos parents. Mais ça n'est pas dans notre image, dans notre imagination, notre imaginaire, ne voit pas les choses de cette manière-là, parce que nous voyons les choses de manière tout à fait terrestre. Mais nous existons, nous préexistons déjà à nos parents dans la pensée et dans le cœur éternel de Dieu. Lui ne se trouve pas dans le temps. Et c'est très difficile de voir les deux choses en même temps. Or, le regard que nous donne la Bible, c'est ce regard de la préexistence. Vous allez voir comment Saint Paul va parler. C'est le regard de la préexistence. Avant que tu sois dans le sein maternel, je t'ai connu. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Ce que nous appelons prédestination, c'est pas la manière habituelle dont nous voyons. Quand nous disons que quelqu'un est prédestiné, c'est comme s'il était prédéterminé à quelque chose, à faire quelque chose. Non, prédestiné, ça veut dire je suis, tu es dans le dessein d'amour de Dieu depuis toujours jusqu'à toujours. Et ce dessein d'amour de Dieu triomphera. Je vis dans cette espérance-là. Et donc, l'Évangile nous dit, retournez votre manière de voir et découvrez dans la virginité de Marie votre propre virginité, celle à laquelle vous êtes tous appelés. C'est-à-dire à devenir fécond par grâce de Dieu et pas seulement à devenir fécond par une union conjugale. Donc, il y a un autre type de naissance. Il y a à découvrir que nous sommes tous d'abord et avant tout nés d'en haut, donc fils de Dieu au sens le plus strict du terme. Et c'est cela que Saint Luc est en train de nous raconter quand il nous raconte la naissance de Jésus. Donc il parle de notre propre naissance et de la naissance de Jésus dans notre aujourd'hui. Mais attention, ce destin de Jésus, comme le nôtre, nous y disons aussi le nôtre, passe par la souffrance. Et lorsque Siméon voit notre mère, la Sainte Église, c'est-à-dire la Vierge Marie qui signifie à la fois, dans cette montée au temple, le peuple d'Israël, gros de la présence de Dieu qui traverse les siècles, et cette présence de Dieu qui traverse tous les siècles, c'est le trajet de l'Immaculée Conception à travers toute l'histoire d'Israël. Et quand il voit cela, eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Maintenant, tu peux délier ton serviteur, Maître suprême, selon ta parole événement en paix. La paix est très importante chez Saint-Luc. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Pour cela, il faut découvrir, non pas que j'ai besoin de salut, comme disent les gens, je n'ai pas besoin de salut. Il m'est donné gratuitement. Le besoin, ce n'est pas quelque chose que je ressens, c'est quelque chose que Dieu me dit. Mes yeux ont vu ton salut. Et qu'est-ce que c'est que le salut ? Parce que beaucoup de gens me diront aujourd'hui, mais j'ai pas besoin d'être sauvé de quelque chose. Je me sauve bien moi-même, comme me disait quelqu'un. Mais tu ne sais pas ce que signifie le salut. Le salut, c'est entrer dans l'intimité divine et continuer d'exister, de vivre et de te développer à l'intérieur même du dialogue du Père, du Fils dans l'Esprit. C'est ça ton salut. C'est découvrir que tu es né de Dieu. Et que tu ne peux vivre qu'en lui. Voilà, de cela, ce n'est pas avec tes besoins humains que tu vas le découvrir. Il faut que Dieu te le dise, qu'il y a un manque fondamental en toi. Ton salut que tu apprêtas à la face de tous les peuples. Et ça, c'est la personne même de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, il dira, il n'y a aucun nom dans lequel nous puissions être sauvés. Et nous le retrouvons. Retrouvons le même Luc. Que tu apprêtas à la face de tous les peuples, lumière pour une révélation de nations, c'est-à-dire pour la révélation pour les païens. Les païens vont découvrir le sens de leur existence à partir de ce Jésus. Et gloire de ton peuple Israël. Et Israël va découvrir son accomplissement à partir de ce même Jésus. Vous voyez que Saint-Luc nous a déjà, dans cette formule extrêmement dense que nous chantons depuis le 2 février, nous a découvert déjà toute une théologie universelle. Mais pas universelle pour tout le monde, mais pour tout un chacun, tel quel qu'il soit. Et son père, et sa mère, chacun d'entre nous, père et mère, était en train de s'étonner de ce qui était parlé à son sujet. Étonnement bien important. Pour nous montrer justement le saut que nous avons à consentir pour découvrir le lieu dont à partir duquel Luc parle. Et Siméon, qui veut dire l'écoutant, Siméon, les bénit. On bénit beaucoup hein, dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile et au début. Les bénit. Bénir, c'est toujours reconnaître que la vie vient de Dieu ou donner la vie. Quand Dieu bénit, il donne la vie. Quand un homme bénit, il reconnaît que la vie vient de Dieu. Il reconnaît que l'existence nous est donnée. Et Siméon les bénit et dit à l'adresse de Marie, sa mère, « Voici, celui-ci se trouve gisant. » Le terme est intéressant. Il gît, comme il gisait dans la crèche, comme il va être, lorsqu'il sera dépendu de la croix et mis au tombeau, et l'iconographie byzantine met toujours en rapport la naissance de Jésus avec sa résurrection, c'est le même tombeau, que vous voyez d'un côté comme de l'autre, pour une chute et une résurrection de beaucoup en Israël. Il va être le test sur lequel Israël va débattre, va découvrir sa propre identité. Une chute et une résurrection de beaucoup en Israël. Et il utilise le vocabulaire, à peu près le vocabulaire que vous trouvez au chapitre 9 à 11 de Saint-Luc, de Saint-Paul, dans l'Épître aux Romains. Est-ce que c'est pour une chute totale qu'Israël a fait un faux pas? Ou pour être un signe, et pour être, pardon, un signe sans cesse contredit. Donc il ne faut pas nous étonner si ce n'est pas compris. Et rendre l'évangile compréhensible, c'est-à-dire le réduire à une réalité simplement humaine, c'est entrer dans le Nouvel Âge, c'est-à-dire mettre à la place de Jésus une sorte de grande humanité, mais ce n'est pas découvrir l'évangile. Et pour un signe sans cesse contredit, et alors, il met entre parenthèses, ou entre tirets, « Hors de toi-même aussi, un glaive transpercera l'âme. » C'est dit à Marie Israël, c'est dit à Marie Église, et c'est dit à Marie, nous, notre Église d'aujourd'hui. Découvrir cette présence de Jésus comme l'unique lieu du salut ne va pas sans souffrance, sans retournement profond. Et c'est un homme d'Israël qui nous dit ça, un écoutant. De façon que soient révélés les débats de nombreux cœurs. Que ces débats soient les débats de nos cœurs, c'est conforme à l'Évangile. Que ces débats deviennent ceux des médias, ça devient plus compliqué parce que les débats sont mis nécessairement à un niveau où les choses ne pourront pas être comprises. Et où elles sont nécessairement décriées parce que non comprises et parce qu'on ne veut pas les comprendre. Et on ne veut pas les comprendre parce que c'est trop dur. Et donc, on les met de côté. On les met, pour prendre le langage maintenant des Actes des Apôtres, on les met en prison. Autrement dit, encore, on les garde en otage. On les enferme dans un système. Et vous sentez très bien que c'est cela, que dont nous sommes constamment victimes, c'est d'être constamment enfermés dans un système dont nous ne pouvons pas sortir. C'est une autre manière de mettre Jésus dehors. Et il était une prophétesse, âme, la grâce, son nom signifie la grâce, fille de Phanuel, c'est-à-dire Phanuel, c'est-à-dire Dieu est apparu, Dieu a montré ses visages, hors de la tribu d'Assée, qui se trouvait avancée en jour nombreux, donc c'est une sage, ayant vécu avec un homme pendant 7 années depuis sa virginité, qui ne parle de virginité ici aussi. Et elle était restée veuve jusqu'à 84 années, qui ne se retirait pas du temple par des jeûnes et des implorations, rendant sans cesse un culte nuit et jour.
vous aurez reconnu Israël qui veille, Israël qui prie, Israël qui est au temple. Et vous retrouvez, hein, pendant ce culte nuit et jour, c'est une formule que vous retrouvez dans un des discours de Paul, au chapitre 26e des Actes des Apôtres, pour caractériser précisément Israël. Oui, nous sommes vraiment dans ce peuple d'Israël, qui est un peuple concret, à partir duquel Jésus naît. Et étant survenu à l'heure même, elle célébrait Dieu et parlait à son sujet, à tous ceux qui accueillaient le rachat de Jérusalem.
C'est une note de chronologie et de nombre, ça. Ça a un sens, probablement.
Mais bien sûr, ça a un sens. 84, c'est combien?
7.
Exactement. C'est le chiffre des nations multiplié par le chiffre d'Israël. 84 ans.
Heureusement qu'elle a atteint cet âge-là.
Oui, ça veut dire qu'elle est vraiment la charnière. Elle est entre l'un et l'autre. Elle est l'un et elle est l'autre. Elle est 12 et elle est 7. Donc, 12 étant le chiffre d'Israël et 7 étant le chiffre des nations. Vous allez d'ailleurs les revoir dans les Actes des Apôtres. Donc, c'est vraiment, oui, c'est cette femme, de même qu'Élisabeth, de même que Marie, se trouve là, entre les deux testaments, comme celle qui accueille la présence de Dieu et qui le reconnaissent en Jésus de Nazareth. Et donc, elle nous explique déjà ce qu'est la tâche de l'Église, les saintes femmes que vous allez retrouver à la fin de l'Évangile, elles sont déjà ces figures-là, qui mettent Jésus au monde, Jésus ressuscité au monde, c'est-à-dire qui font vivre le corps concret du ressuscité dans son Église. Il est parti en nuée, il vient en nuée. Pour ça, pour qu'il vienne en nuée, il faut le mettre au monde aujourd'hui. Et vous trouvez dans les Actes des Apôtres, Marie et les disciples et les frères, ils sont en train de faire quoi? Mais ils sont à la nativité, ils sont à la grotte de Bethléem. Ils sont là en train d'attendre celui qui vient. Attendre que l'Esprit Saint nous découvre ce corps virginal de l'Église qui est en train de naître, qu'il faut mettre au monde. Vous voyez, cette vision, quand vous mettez les deux choses ensemble et quand vous allez passer de l'Évangile aux Actes et des Actes à l'Évangile, vous voyez la hauteur, on disait que la barre était haute, ou la barre est très haute. La hauteur à laquelle se situe l'Évangile. Mais ce discours est une prophétie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité concrète. Mais ce discours est une prophétie, c'est-à-dire, elle nous dit tout le destin de Jésus et de l'Église en quelques mots. Et alors, voyez, bon, parce qu'on m'a posé la question, je viens là-dessus. Quand on lit un livre que par ailleurs j'estime, mais il faut savoir le lire, un livre comme celui de Jacques Duquesne sur Jésus. Jacques Duquesne est un homme qui est à la fois un croyant, je dirais un peu un croyant d'antichambre, c'est-à-dire un croyant comme la plupart d'entre nous, qui n'est pas arrivé jusqu'au cœur de sa foi, mais qui est un croyant, il peut se dire seul. Il est encore dans la salle d'attente. Et en même temps, c'est comme la plupart d'entre nous aussi, un rationaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui part de sa raison, de ce qu'il voit, de ce qu'il sait, de ce qu'il sent. Et comme il n'est pas tout à fait au clair avec ces deux éléments de sa personnalité, il ne sait pas toujours très bien comment les connecter. Et donc, nous nous trouvons de temps en temps à un niveau, de temps en temps à un autre niveau. Et évidemment, il ne nous avertit pas. Et celui qui ne peut pas prendre de recul a aussi du mal à se situer, parce qu'il est l'un et l'autre. Hein? Le lecteur, sinon, généralement, on ne le lit pas, ou bien on en lit 10 pages et puis on le laisse. Le lecteur doit pouvoir se situer et découvrir, tiens,
quel type de réflexion fait-il à ce moment-ci ou à ce moment-là? Alors, évidemment, quand il parle de la Vierge Marie et de sa virginité, il vous dira, comme la plupart des protestants, comme beaucoup de catholiques, hélas, il vous dira, je ne crois pas en la virginité de la Vierge, et donc c'est du pur symbole. Je voudrais bien d'abord qu'il me montre ce que c'est du pur symbole. C'est un symbole jamais pur. Un symbole est toujours accroché à une réalité concrète, sinon il n'y a pas de symbole. Même les symboles mathématiques sont rattachés à des réalités concrètes. Alors oui, il me dira c'est du pur symbole, alors nous traduisons, donc il ne faut pas y croire. Je vais traduire maintenant autrement. Ce sont des récits symboliques. Donc, ils nous plongent dans la profondeur de notre histoire. Et ils nous font lire cette histoire à la lumière de Jésus de Nazareth et de sa préexistence et de notre préexistence et de la vie de l'Église. Symbole comme ça, d'accord, c'est ce que les pères de l'Église appellent allégorie. Et l'allégorie est toujours enraciné dans la réalité de l'histoire. Mais ce qui s'est passé entre Marie et Joseph, sur le plan de l'affection, sur le plan de leurs gestes, blackout complet. Ce n'est pas ce que l'Évangile a à nous dire. Mais l'Évangile nous dit, Jésus n'a pas de père humain parce que son père est Dieu. Et donc, c'est un amour tout à fait virginal, c'est-à-dire un amour où Dieu peut librement faire vivre sa fécondité dans une maternité vraiment virginale. Ça, c'est là la véritable réalité. Car quand Dieu prend pied dans le monde, il le fait d'une manière absolument unique. Et en même temps, il nous révèle que quelque part, il y a dans notre mère et dans notre père un vœu de virginité qui trouve son accomplissement en la Vierge Marie et en Joseph. Il nous dit qu'il y a un au-delà de notre réalité simplement humaine et qui jette un regard étonnant sur ce qu'est la procréation. Et à partir de cette idée de procréation, alors nous pouvons lire une encyclique du pape sur la vie. Et c'est d'un tout autre point de vue que celui par lequel nous commençons les choses. Et Jacques Duquel, il prendrait les choses par en bas. Et il voudrait d'abord se rendre compte, éventuellement, de la virginité concrète de la Vierge Marie, et pouvoir examiner son corps pour pouvoir déterminer sa foi. Mais ça ne va pas, ça. Hein? Ça ne va pas. C'est justement le chemin inverse. Vous n'y arriverez jamais comme ça. Ça, c'est, de nouveau, bâtir la tour de Babel. Oui. Partir de nous-mêmes pour essayer de mettre la main sur le mystère. Or, c'est le mystère qui éclaire notre vie. Ça, c'est l'enfance de Jésus et l'enfance de l'Église. C'est l'un comme l'autre. Et, lire l'Évangile, c'est cela. Et quand Jésus prend pied sur cette terre à l'âge adulte, qu'est-ce qu'il va manifester? Alors, vous allez voir, de nouveau, le langage que nous trouvons dans l'Évangile n'est généralement pas lu au niveau où il doit être lu. Il dit, donc, d'abord qu'il y a un baptême. C'est-à-dire qu'il est plongé dans la réalité du peuple, comme la nôtre. Et c'est à partir de cette réalité dans laquelle il est plongé, c'est-à-dire le péché de l'homme, immergé en quelque sorte par ce péché de l'homme, qu'il va prier son Père. Et c'est dans cette relation de Jésus, tout à fait homme, immergé dans le péché, priant son Père, que l'Esprit Saint descend sur lui et que la voix du Père se fait entendre, qu'il y a Pentecôte. C'est dans le creux et à partir du creux du péché de l'homme qu'il y a Pentecôte. Donc ce n'est pas un homme à partir d'un homme qui est converti. Lui, il est Il n'est pas converti, il n'a pas besoin de l'être. Mais c'est en tant que fils de Dieu qu'il plonge jusque-là. Et lui, en d'autres termes, il est descendu aux enfers. D'ailleurs, c'est ce qui est exprimé par l'iconographie, de nouveau, l'iconographie byzantine. Vous voyez le baptême de Jésus, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une faille entre deux rochers. Et Jésus plongé tout au fond de cette faille. Cette faille entre les deux rochers symbolise précisément nos enfers. C'est-à-dire nos réalités les plus basses. Inferno, ça veut dire ce qui est tout à fait en dessous. Donc, c'est le dessous de notre liberté. C'est le refus de notre liberté. Et Jésus plongé dans les eaux du baptême, c'est Jésus plongé dans notre propre refus. Dans notre propre refus d'être appelé et d'être fils de Dieu. Et il faut qu'on nous le dise que nous sommes fils de Dieu. Et que nous sommes donc appelés à devenir un seul cœur et une seule âme dans le Christ, dans le monde du Christ. Il ne faut pas s'étonner que vous allez retrouver la même chose dans les Actes des Apôtres. Mais cette fois-ci, au lieu de vous parler d'une seule personne, la personne de Jésus, individuelle, on vous parle de la personne de Jésus, collective, c'est-à-dire de notre réalité communautaire. Ce pourquoi nous sommes faits. En Jésus, nous découvrons notre avenir, notre prédestination. En Jésus, corps du Christ, nous découvrons notre avenir, notre prédestination. Mais, avec cette différence, que ici, c'est une méditation, dans l'évangile de Jean, c'est une méditation sur Jésus individuel. Dans les Actes des Apôtres, c'est une méditation sur notre Église historique.
On dit dans l'évangile de Jean, mieux je dis.
Chez Jean, vous trouvez la même chose. Mais dit autrement, parce que son langage est divers, est différent. C'est la même réalité profonde. Mais oui, ça, c'est le niveau où se situe l'évangile. Or, nous descendons chaque fois à l'évangile au niveau de ce que j'appellerais le disponible historique, c'est-à-dire notre imaginaire. Nous imaginons ce qui aurait bien pu se passer. Et nous pensons que ce que nous avons imaginé, c'est la réalité. Le texte n'est pas ça, ne dit pas ça. Le texte nous fait chaque fois faire un demi-tour pour nous situer dans le regard.
Il faut que ça accroche dans notre imaginaire aussi, sinon on ne croit pas.
Bien sûr. Et donc il faut d'abord passer par cet imaginaire, des débats de nombreux cœurs, accepter la problématique et accepter le langage de M. Jacques Duquesne en attendant et essayer de le dépasser. Alors évidemment, les endroits où Jacques Duquesne va déraper, ce sont les endroits tout à fait normaux que vous retrouvez constamment, c'est la naissance de Jésus, ce sont les miracles, entre guillemets, et c'est la résurrection de Jésus. Il ne faut pas vous étonner de trouver des dérapages justement à ces endroits-là. Pour le reste, bon, de temps en temps, il entend bien sûr. Hein. Mais c'est là qu'il se trouve en particulier. Et c'est normal. Il ne faut pas s'étonner de cela. Et c'est normal parce que nous aussi, nous dérapons. Il va nous... Il agit comme un miroir hein, de la manière dont nous-mêmes aussi nous nous situons. Alors, quand nous avons peur, hein, parce qu'il pourrait nous déstabiliser, et c'est une excellente peur, il va nous permettre de rentrer avec plus d'humilité dans le mystère. Alors, quand vous voyez Jésus, il arrive, il est baptisé, il reprend en charge toute l'humanité, donc c'est pas n'importe qui. Il est quelqu'un qui est présent à travers tout le chemin de l'humanité. Vous allez voir comment Saint Paul va dire ça.
Jean-Hubert, vous l'avez dit.
Oui.
Je suppose qu'on va d'ailleurs en parler bientôt, mais il y a, je pense, quand même aussi une théologie d'en bas qui est justifiable. Et parce que Luc présente deux écoutes.
J'allais revenir à la théologie d'en bas en prenant les actes différents. Parce que là, nous pouvons sur le plan d'une histoire concrète aussi.
Oui. Le
raconte peut-être le week-end de notre part, ça nous fait réfléchir qu'il n'y a pas justement une vision qui est plus grande, qui est peut-être fondamentaliste, ce qui est plus intérieur que le passé. Quoi.
Oui,
qu'on n'est dire... pas au mot par mot, mais que le mot veut dire plus que.
C'est ça.
Cela, il est positif.
Quoi. Lui n'est pas fondamentaliste, je ne crois pas qu'il soit fondamentaliste. Il est un peu rationaliste, même beaucoup à certains moments. Il n'est pas fondamentaliste, mais il part d'une vision de l'évangile fondamentaliste. Il parle à des gens dont la vision est fondamentaliste.
Rationaliste, c'est un fondamentaliste.
Ah, tout à fait. Mais seulement, il ne comprend pas ou il le comprend mal. Il dit, donc, ceci est symbolique, donc ce n'est plus du domaine de l'histoire. C'est pas juste. C'est la profondeur du mystère qui éclaire le symbole. Alors, bien sûr, que alors Jésus plein d'esprit s'est retourné au Jourdain, et puis nous le voyons à Nazareth, et nous voyons proposer une libération de captifs. Mais, chose étrange, le captif qui devrait être libéré, c'est Jean-Baptiste, qui est en prison. Et il va se poser la question de savoir pourquoi il reste en prison, et si celui qui l'a annoncé était bien le Messie. Et ceci est significatif aussi, parce que ça nous manifeste qu'il y a libération et libération. Et dans les Actes des Apôtres, quand nous voyons que l'homme qui est privé de liberté, c'est-à-dire le prisonnier, se trouve de plus en plus libre, ça peut nous faire réfléchir sur ce qu'est la véritable libération. Alors, nous le voyons proposer une libération, et n'étant pas accepté par les gens, parce que les autres sont en quelque sorte...